Décryptage, Anne Cantner.
Le vice-président et le secrétaire d'État américain en visite en Turquie, le ministre français des Affaires étrangères attendu en Irak, le président turc invité à Moscou par Vladimir Poutine. Les initiatives diplomatiques se multiplient une semaine après le début de l'offensive de la Turquie contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Cette offensive va-t-elle renforcer le groupe État islamique comme le redoutent de nombreux pays ? Que faire des plus de 10 000 djihadistes détenus dans les camps contrôlés par les Kurdes ? Bienvenue dans Décryptage. Pour en parler, nous recevons ce soir Pierre-Jean Luizard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, chercheur au CNRS et vous êtes l'auteur de La République et l'Islam, publié cette année aux éditions Talendier. Nous sommes également en ligne avec Matteo Puxton, analyste du conflit syrien et de la stratégie militaire du groupe État islamique. On peut vous lire notamment dans Historicoblog. Bonsoir.
Bonsoir.
Les combats opposent donc aujourd'hui l'armée turque et des supplétifs syriens aux forces kurdes, désormais soutenues par l'armée du régime de Bachar al-Assad. Officiellement, cette offensive turque, le long de sa frontière, vise ce que les autorités appellent des terroristes, c'est-à-dire à la fois les Kurdes, en lien avec le mouvement du PKK en Turquie, et les membres du groupe État islamique. Matteo Puxton, où se trouvent aujourd'hui les combattants du groupe État islamique ? Est-ce qu'ils se trouvent dans les villes qui sont attaquées par l'armée turque ?
Alors, en réalité, en Syrie, donc le groupe État islamique a perdu sa dernière enclave territoriale en mars 2019 à Barouz, mais il avait activé bien avant, c'est-à-dire en juin 2018, hein, puisque ça commence en juin 2018, des cellules clandestines, à la fois dans les territoires qui sont tenus par les Kurdes, hein, donc la province de Raqqa, la province de Hazaka, la province de Deir ez-Zor, le secteur autour de la ville de Manbij aussi, donc il était présent déjà dans ce secteur tenu par les forces démocratiques syrienne, mais il est présent aussi le groupe État islamique dans les zones tenues par le régime, dans la Badia, ce qu'on appelle la Badia, qui est le désert au sud-est du pays, donc qui est en théorie contrôlé par le régime syrien, mais dans lequel le groupe parvient encore à se dissimuler et à mener des attaques. Et on le trouve aussi, ce groupe État islamique, présent par exemple dans l'enclave d'Idlib, qui est tenue par le groupe djihadiste rival Hayat Tahrir al-Sham. Donc il a une présence à peu près sur tout le territoire, mais de manière clandestine, donc avec des attaques qui sont de type insurrectionnel.
Alors pour rester dans les régions qui sont concernées par l'offensive turque, est-ce que le groupe État islamique bénéficie dans ces endroits-là d'un soutien populaire, Pierre-Jean Luizard ?
Alors je crois qu'on aurait tort de limiter la menace de l'État islamique aux réfugiés qui sont présents dans les camps. Il faut rappeler que l'État islamique a été accueilli par une population qui est très largement en dehors des camps, même s'il ne faut pas minorer le danger de ces ex-djihadistes qui risquent de s'échapper des camps. Il faut malgré tout revenir sur une situation qui est très favorable à un nouveau développement de l'État islamique et notamment à une nouvelle territorialisation grâce au retour en force, paradoxalement, d'un régime honni par la population, celui de Bachar el-Assad.
Qui soutient désormais les forces kurdes donc dans le nord et le nord-est de la Syrie.
On a toujours considéré que Daesh était battu. Ce n'est pas le cas, parce que Daesh est aujourd'hui en situation clandestine, prête à repartir au combat si d'aventure des opportunités se présentaient. Et aujourd'hui, cette double attitude, à la fois de l'offensive turque et de retrait américain, offre toutes les possibilités pour la résurgence de Daesh. Et ça, c'est une situation très grave pour nous. C'est notre sécurité qui est en jeu, c'est pourquoi la situation est aujourd'hui très grave.
Le ministre français des Affaires étrangères, il était interrogé ce matin par nos confrères de BFM TV et RMC. Jean-Yves Le Drian parle de risque de résurgence du groupe État islamique, mais d'après ce que vous disiez tous les deux, le groupe terroriste n'a pas du tout disparu. Matteo Puxton, dans quel état se trouve aujourd'hui l'organisation de l'État islamique ? On parlait des lieux dans lesquels il se trouvait il y a quelques instants. Où en est-il en termes d'hommes et en termes financiers ?
Alors, en termes d'hommes, il y a plusieurs milliers de combattants, ça c'est une certitude, qui opèrent de manière clandestine, que ce soit en Syrie ou en Irak. J'ajoute qu'au-delà de la Syrie et de l'Irak à proprement parler, il ne faut pas oublier non plus que l'EI a le contrôle aussi de branches qui sont en dehors, un peu partout, et qui pour certaines sont très inquiétantes. Je pense notamment au Nigeria, où la situation se dégrade de plus en plus. Alors sur le plan financier, l'EI s'est constitué pendant la période territoriale, en tout cas pendant la période haute, donc notamment en 2014, 2015, un trésor de guerre assez faramineux qui fait qu'aujourd'hui le groupe qui opèrent de manière clandestine en Syrie et en Irak, se trouvent finalement dans une meilleure situation que celle qui était la sienne, par exemple, en 2007-2008, après le surge, ce qu'on a appelé le surge américain, quand les États-Unis avaient injecté des troupes supplémentaires et avaient essayé de se rallier les tribus sunnites irakiennes pour détruire donc les djihadistes. Le groupe est à ce moment-là en grande difficulté. Aujourd'hui, donc, il est revenu aussi à la clandestinité, mais avec effectivement un trésor de guerre beaucoup plus conséquent qui se chiffre probablement en centaines de millions de dollars. Et en plus, pour mener des opérations qui sont finalement pas très coûteuses, hein, parce que quand le groupe opère en mode insurrectionnel, etc., c'est évidemment beaucoup moins coûteux de payer pour acheter des armes ou de quoi fabriquer des explosifs que de gérer un État finalement à cheval sur la Syrie et l'Irak, comme ça avait pu être le cas en 2014-2015. Donc la situation au niveau financier pour le groupe reste confortable et il a de quoi alimenter l'insurrection qu'il mène actuellement en Syrie et en Irak.
Le groupe État islamique a-t-il encore pour objectif d'établir un califat, Pierre-Jean Louisard ?
Oui, c'est ce qui le différencie d'Al-Qaïda, qui a effectivement, comme l'État islamique, pour objectif l'établissement d'un califat, mais sans territorialisation. Et c'est probablement la force de l'État islamique par rapport aux autres groupes salafistes djihadistes, c'est-à-dire qu'ils ont un ancrage local qui les fait apparaître comme les meilleurs protecteurs des Arabes sunnites dans un contexte de communautarisation et de confessionnalisation exacerbée.
Alors les forces kurdes dont on parlait, qui sont visées par cette opération de la Turquie, ont été au cœur de la guerre contre le groupe État islamique. Aujourd'hui encore, jusqu'à très récemment en tout cas, elles traquaient ces cellules terroristes dont vous parliez, Matteo Pukston. Maintenant que les combattants kurdes sont concentrés sur un autre front face à la Turquie, est-ce que ça peut faciliter encore plus un renforcement de l'EI ?
Mais c'est évident, hein. De toute façon, les Kurdes ont annoncé dès le premier jour de l'offensive turque qu'ils arrêtaient les opérations tournées contre les cellules clandestines de l'EI. Et le groupe tout de suite a agi. Hein. Il y a eu une voiture piégée qui a explosé dans la ville de Kamishli, donc qui est dans la province de Hazaka au niveau de la frontière avec la Turquie. Et chaque jour depuis le début de l'offensive turque, vous avez des opérations qui continuent de ces cellules clandestines, que ce soit aux alentours de Raqqa, que ce soit dans la province de Deir ez-Zor, donc qui est un peu plus au sud-est, dans la province de Hazaka dont je parlais tout à l'heure, où se trouve le fameux camp qui renferme les familles de djihadistes, le camp d'Alol, hein, qui est une mini-ville, hein, puisqu'il y a 60 à 70 000 personnes qui sont retenues dans ce camp. Donc voilà, effectivement, l'offensive turque, par le chaos qu'elle entraîne et par le fait que les Kurdes soient mobilisés, évidemment, pour repousser sur le front militaire l'offensive turque, ça fait évidemment que ces cellules de l'EI peuvent agir beaucoup plus librement.
Alors nous avons entendu il y a quelques instants le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il part ce soir pour l'Irak afin d'évoquer le sort de djihadistes français détenus dans les camps contrôlés par les Kurdes dans cette zone du nord-est de la Syrie.
À ma connaissance, Jean-Jacques Bourdin, à l'heure actuelle, il y a l'offensive turque et l'attitude et le positionnement des forces démocratiques syriennes n'a pas abouti à ce que ces camps-là, qui sont essentiellement dans l'est du nord-est syrien, soient menacés dans la sûreté et sécurité indispensable.
Ça veut dire que ces camps, dans lesquels sont prisonniers des djihadistes, ces camps sont toujours tenus par les Kurdes.
Aujourd'hui, oui.
Alors ces prisonniers sont en tout plus de 10 000 dans les camps qui sont contrôlés par les Kurdes. Et ils sont une priorité du groupe État islamique. C'est ce qu'a dit Aboubakar al-Baghdadi, le chef de l'organisation, dans un discours le mois dernier. Matteo Pukston, est-ce que l'EI compte libérer tous les détenus qui se trouvent dans ces camps ?
Non, pas forcément. Alors, effectivement, le dernier discours audio d'Aboubakar al-Baghdadi, le 16 septembre, donc il y a à peu près un mois, disait la chose suivante. Effectivement, on va essayer de libérer les cadres qui sont détenus dans les camps. Donc là, il parlait des hommes. Et ensuite, effectivement, il y a le discours qui consiste à dire, pour ce qui est des femmes et des enfants, attendons l'opportunité, voilà, soyez patiente, attendez l'opportunité qui va se présenter. De fait, l'opportunité est là. Je rappelle quand même qu'il y a eu, depuis l'offensive turque, il y a des mouvements quand même assez inquiétants dans les prisons qui sont tenues par les Kurdes. Hein. On voit des images, par exemple, dans la prison de Chadadi, donc, qui est dans la province de Hazaka, où les Kurdes sont obligés de placer des gardes armés au-dessus des cellules parce que les détenus essayent, en fait, de forcer les portes. De la même façon, on a vu que le camp d'Ain Alissa, où étaient détenus au nord de Raqqa un certain nombre de familles djihadistes, en particulier étrangères, avaient, alors, soi-disant été bombardés par les Turcs. Sur place, on nous dit plutôt que c'est les Kurdes qui ont ouvert les portes du camp, et donc il y a plusieurs centaines de familles qui sont sorties. partie. Et puis dans le camp d'Al-Hol dont je parlais tout à l'heure, on commence à voir aussi les choses bouger sérieusement, avec donc les femmes à l'intérieur du camp qui commencent à s'agiter, avec des passeurs qui commencent à rentrer dans le camp aussi. Alors ça se faisait déjà avant, mais maintenant ils sont de plus en plus actifs, et puis ils approchent, ils rentrent dans le camp pour proposer aux femmes de sortir. Donc voilà, la situation est quand même extrêmement tendue, et je pense que le maintien entre guillemets des Kurdes sur les camps et les prisons ne tient qu'à un fil.
Et que peut-il se passer, Matteo Buxton, si à l'issue des combats qui se déroulent en ce moment, c'est l'armée syrienne qui prend le contrôle de ces camps?
Mais si l'armée syrienne prend le contrôle de ces camps, a priori, elle récupère donc ces prisonniers, que ce soit les familles de djihadistes ou les hommes qui étaient détenus dans les prisons. Mais encore une fois, c'est tombé de Charybde dans Scylla, puisque le régime syrien disposera à ce moment-là, par exemple, de prisonniers dont il pourra se servir peut-être dans sa propagande ou pour faire pression ou chantage sur les puissances avec lesquelles il est en conflit à propos de la résolution de la guerre en Syrie. Et puis on sait très bien aussi par ailleurs que le régime syrien a une histoire avec le djihadisme qui est quand même assez tordu, hein, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire qu'on sait que Bachar el-Assad, en 2011, n'avait pas hésité à libérer des djihadistes emprisonnés, dans le but évident de radicaliser au maximum l'opposition syrienne qui était en train de se militariser, et effectivement pour passer pour un sauveur et présenter l'alternative, c'est moi ou les djihadistes finalement. Donc le scénario pourrait se répéter, il pourrait très bien réutiliser ces djihadistes capturés, comme il l'a déjà fait par le passé, comme son père l'avait fait avant lui, pour exercer une forme de pression ou de chantage quant à son maintien au pouvoir, par exemple.
Alors, dans ces camps, il y a environ 2 500, 3 000 étrangers, dont des Français. Donc, le ministre français des Affaires étrangères en parlait. Il part ce soir pour l'Irak pour parler d'un dispositif international qui permettrait de juger les djihadistes. Pierre-Jean Luizard, ça fait déjà un moment que l'idée est évoquée. 7 pays travaillent. La France, donc, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark. Où en est-on aujourd'hui de ce projet ?
Eh bien, c'est un projet qui va difficilement voir le jour parce que les intérêts sont tellement divergents entre les différents protagonistes, et il y a aussi la question du droit. À partir de quel droit allons-nous juger ces combattants qui sont certes des criminels, mais qui sont aussi des adversaires politiques. Et il faut reconnaître que au Moyen-Orient, toutes les parties prenantes ont du sang sur les mains, y compris les coalitions américaines et russes, qui, aux yeux des populations locales, se sont rendues coupables de crimes inacceptables.
Alors, on parle aujourd'hui d'un tribunal international parce que des procès ont déjà eu lieu. En mars dernier, en Irak, 11 djihadistes français avaient été jugés. Ils avaient été condamnés à mort après des procès qui étaient jugés expéditifs par beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Et pour éviter le scandale, il semblerait que cette fois, l'Irak pose des conditions.
Oui, l'Irak pose des conditions d'une façon extrêmement cynique, en faisant payer les procès intentés sur, d'après le droit irakien, aux djihadistes, que ce soit en monnaie sonnante et trébuchante ou bien en matériel militaire. Et lorsqu'on connaît le caractère expéditif et confessionnel de la justice irakienne, on voit qu'on sera confronté à tout sauf à une justice impartiale et libre.
Est-ce que les pays qui participent aux discussions concernant la création donc d'un tribunal international pourraient accepter ces conditions de l'Irak, selon vous ?
Alors, ce ne serait pas la première fois que nous nous compromettons avec des régimes politiques dans la région peu fréquentables, et il y aurait un danger, à mon avis, à accepter une forme de légitimité à des gouvernements et à des justices qui sont tous sauf indépendantes et qui ne représentent en rien les justices des pays démocratiques. La moins mauvaise solution, puisqu'il n'y en a pas de bonne, serait qu'il soit rapatrié en France et jugé comme criminel et comme opposant politique. Mais je pense que les opinions européennes sont très largement hostiles à un tel rapatriement, et que nous nous en remettrons à la justice irakienne qui, comme je l'ai dit, montre une fois de plus un visage cynique à la diplomatie. diplomatie occidentale.
Pour l'instant, en tout cas, la France n'a absolument pas l'intention de rapatrier donc ces djihadistes pour qu'ils soient jugés en France. Il y a cette idée donc de tribunal international. Avant de juger ces djihadistes, il faudrait déjà les transférer en Irak. Qui pourrait faire ça, Matteo Buxton?
Le transfert en Irak, de toute façon, ça peut être fait en collaboration, par exemple, entre les forces démocratiques syriennes, le gouvernement irakien ou les Kurdes irakiens aussi qui peuvent aider à transférer des prisonniers. Mais encore une fois, ça s'est déjà fait. Hein, effectivement, comme le rappelait Pierre-Jean Louisard, il y a déjà eu un transfert, on en avait beaucoup parlé, d'une dizaine de Français qui étaient captifs en Irak.
Alors, en imaginant qu'un tribunal soit effectivement créé et les détenus transférés, l'Irak serait-il en mesure d'assurer la détention de ces djihadistes, Matteo Buxton?
Alors oui, tout à fait, la détention des djihadistes peut être assurée, mais comme le rappelait Pierre-Jean Louisard, effectivement, ça se fait dans des conditions qui sont très critiques. Hein. Les prisons irakiennes sont surchargées, avec effectivement une justice irakienne qui est des plus expéditives, ça a déjà été dit, donc on ne peut pas être satisfait, à mon avis, par cette solution-là.
Alors, on en parlait à l'instant, certains détenus ont déjà été transférés, et d'après certaines informations, les autorités françaises cherchent à transférer en ce moment entre 50 et 100, entre 60 et 70, j'ai lu des chiffres différents en préparant cette émission, en tout cas plusieurs dizaines de djihadistes français qui sont considérés comme les plus dangereux. Est-ce que vous avez des informations sur cette initiative, Pierre-Jean Louisard?
Sur cette initiative précisément non, mais encore une fois il faut rappeler que le principal danger qui menace la France provient des contradictions de notre politique et du fait que nos pays occidentaux, la France notamment, a une longue tradition de soutien des minorités ethniques et confessionnelles contre les majorités, et le danger vient essentiellement de là, c'est-à-dire du soutien passif ou actif des populations locales arabes sunnites qui n'ont pas de parrain, ça n'est ni l'Arabie Saoudite ni la Turquie qui vont protéger des populations soumises soit aux bombardements russes ou américains, soit aux exactions du régime de Bachar el-Assad. Et à ce titre, je conseille à nos auditeurs d'aller voir le film très éprouvant et qui s'intitule Pour Salma, qui montre comment a été réglé le sort d'Alep Est et l'enfer qu'ont vécu la population de ces quartiers. Et c'est un enfer qu'a vécu beaucoup de secteurs du territoire irakien. Et c'est là le principal atout de l'État islamique, beaucoup plus que dans les camps et parmi les prisonniers qui pourraient s'en échapper, c'est-à-dire le désespoir d'une population qui ne trouve personne pour la protéger.
Et le rejet très fort, donc si je comprends, du régime syrien. Un mot encore de ces transferts de djihadistes. Selon nos confrères d'Europe 1, les États-Unis, eux, ont déjà exfiltré une cinquantaine de djihadistes considérés comme particulièrement dangereux. Est-ce que vous avez des informations sur la manière dont s'est déroulée cette opération, Matteo Buxton? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que des forces spéciales françaises fassent la même chose pour des Français, par exemple?
Alors, on sait effectivement que les États-Unis ont exfiltré notamment deux personnages qui sont parmi ceux qu'on a appelés les Beatles, hein, c'est-à-dire ces Anglais qui faisaient partie structure de commandement de l'EI, en particulier probablement de l'AMNIAT, c'est-à-dire le service de renseignement qui était notamment chargé de la garde des prisonniers, des otages, voire de la préparation d'attentats en Europe. Alors, je n'ai pas plus d'informations sur les transferts de prisonniers dont vous parlez. Et dans le cas français, effectivement, on peut très bien imaginer que les forces spéciales françaises qui, a priori, se trouvent encore sur place, soit mobilisé peut-être pour rapatrier les détenus français masculins, en particulier les plus dangereux. Ça, c'est envisageable. Après, il faut voir effectivement ce qui va être décidé de ce point de vue-là.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Pierre-Jean Louisard, historien des islams et chercheur au CNRS, et Matteo Buxton, analyste du conflit syrien et du groupe État islamique, notamment de la stratégie militaire de l'organisation. Merci également à toute l'équipe de Décryptage, Luna Timbal à la réalisation, attachée de production Elsa Olaizola et Patrick Adam à la rédaction en chef. Je vous donne rendez-vous demain, même heure. Très bonne soirée à tous.